en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé une journée d'études le 23 mai 2008. L'Académie des inscriptions et belles-lettres a compté en son sein plusieurs japonologues de renom international, tels Bernard Franck, Serge Elisseff, mais aussi des spécialistes reconnus du bouddhisme d'Extrême-Orient, à l'instar de Paul Démiéville. L'Académie perpétue ainsi, avec vigueur, une tradition bien ancrée en France de dialogue avec les savants du Japon. Canal Académie vous propose d'écouter la communication de Marc Fumaroli de l'Académie française et également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, intitulé « La fidélité à soi-même dans la modernité, l'exemple du Japon ». Retrouvons Marc Fumaroli en grande salle des séances de l'Institut de France.
Monsieur l'ambassadeur, monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers amis, je voudrais prononcer quelques mots qui n'ont rien à voir avec une communication, qui sont plutôt de l'ordre du témoignage, en écho à ce que vient de nous dire monsieur l'ambassadeur sur les périls, en quelque sorte, de la modernité et peut-être plus encore ceux de la mondialisation. Sur les restes reconstruits et défigurés de Nuremberg, la plus vaste et intacte cité médiévale d'Europe, sur le moignon orthopédique qui reste la plus belle capitale baroque d'Europe, Dresde, j'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré, mais je n'ai jamais eu le cœur aussi serré qu'en débarquant à la gare du Shinkansen à Hiroshima, où je devais inaugurer les travaux du congrès annuel des professeurs japonais de littérature française. Je me suis fait aussitôt conduire en taxi avec un collègue japonais médiéviste, malheureusement aujourd'hui disparu, au vaste parc qui troue la ville reconstruite, où l'on signale le seul arbre éthique qui ait survécu à l'impact. Ce vide reste l'unique monument silencieux témoignant de la terreur atomique tombée sur la ville. Cet espace terrible où n'a été reconstruit avec une exactitude admirable que le château fort de pierre et de bois du gouverneur de la province pendant les siècles de Shogunat. Le château reconstruit, dont il reste d'autres superbes exemples intacts dans d'autres provinces du Japon, abrite sur plusieurs étages, actuellement, enfin, au moment où je l'ai visité, un musée à la gloire de l'époque Edo. Cette longue parenthèse de paix civile, de prospérité et d'épanouissement de tous les arts, qui n'a guère de parallèle dans l'histoire humaine que les deux siècles de la Méditerranée qui ont suivi la mort de César, ou le siècle et demi de l'Europe qui a suivi les traités de Westphalie. C'est là que j'ai appris que le degré d'alphabétisation de la paysannerie elle-même avait, au Japon du XVIIIe siècle, été aussi élevé qu'en France à la même époque, sous l'effet des efforts des frères de la doctrine chrétienne. Et c'est aussi là que j'ai compris pourquoi Edmond de Goncourt, qui s'était attaché avec son frère à réconcilier les Français de la monarchie de Juillet et du début de l'Empire, avec l'extrême raffinement qu'avaient atteint leurs arts sous Louis XV, ait éprouvé une si vive affinité comme une sorte d'esprit de famille avec les arts de l'époque Edo que le Japon de l'ère Meiji exportait alors sans restriction, voulant l'oublier. La reine Marie-Antoinette avait montré la voie, comme une récente exposition magnifique l'a mise en évidence à Versailles, en collectionnant de luxueux objets de laque japonaise, ainsi d'ailleurs que les ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, au moins les plus prisés, qui incrustaient dans leurs meubles de rares panneaux de laque importés du Japon via Nagasaki, Amsterdam, comme on l'a rappelé tout à l'heure. aux deux extrémités du monde, les conditions optimales pour les arts avaient alors été réunies. La paix civile, intérieure, la stabilité d'une économie en circuit quasi fermé et la conversion générale d'une caste guerrière nombreuse, de l'exercice de la violence à la pratique des arts martiaux, et au plaisir de l'esthétique, des fureurs du mouvement aux jouissances du repos. Impossible d'imaginer de réponse plus digne et plus implicite à la sommation hautaine et impatiente du Commodore Perry le 8 juillet 1853 et à l'enchaînement de conséquences qui a suivi cet abordage jusqu'aux bombes américaines sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945, l'ouverture du Japon, sa modernisation à l'occidental accélérée, que cet éloge méticuleux et somptueux de l'époque Edo sur les lieux mêmes du dernier acte de la tragédie. Cette réponse silencieuse n'a rien d'un défi, naturellement. Il n'y avait aucun élément de défi dans ce musée. Elle contient tout un dialogue, en fait, du Japon avec lui-même. Elle est moins une commémoration de l'époque Edo, comme nous savons si bien les faire en France, mais une reconnaissance de ce qui a été perdu avec cette époque. La supériorité des vides sur les pleins, du silence sur les discours et le bruit, du repos sur le mouvement, du délicat sur le volumineux, des ombres sur la trop vive clarté, de la contemplation sur l'activité compulsive, de la qualité sur la quantité, et en fin de compte, du recevoir sur le prendre, du regard qui se pose sur le regard qui impose. Peut-être me suis-je trompé ce jour-là, mais cette visite à Hiroshima m'a persuadé que la seconde modernisation du Japon, celle d'après-guerre, modernisation économique et non plus militaire comme la précédente, mais tout aussi accélérée en fait, était allée de pair derrière son décor de mégapole et de géant mondialisé de l'industrie et du commerce, avec une redécouverte, une réappropriation silencieuse, le plus souvent indirecte, des valeurs esthétiques et religieuses de l'époque Edo que l'ère Meiji avait abandonnée aux collectionneurs, aux artistes, aux savants américains et européens. À partir de cette première journée à Hiroshima, j'ai vivement souhaité revenir au Japon et le parcourir en profondeur, au-delà de son appareil que j'oserais dire digestif, et de sa façade ultra-moderne. J'ai pu en réaliser ce projet, en moins en partie, quelques années plus tard, à la faveur d'abord d'une invitation d'un homme dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui et que j'aimais infiniment, Bernard Franck, et puis ensuite d'une généreuse invitation de la Société japonaise pour la promotion de la recherche, qui m'a permis de passer un mois entier, et même un peu plus, dans l'ensemble de votre pays. Je ne peux pas dire que j'ai vérifié mon hypothèse. Le Japon n'est pas une allégorie impersonnelle. Il est impossible de lui attribuer une intention ou des arrière-pensées unanimes. J'ai eu, par exemple, la déception de découvrir, en parcourant l'île de Sado, où un fragment du Japon du XVIIIe siècle intact est encore indemne, avec ses ports de pêcheurs, ses manoirs pourvus de théâtres no, ses nombreux couvents, son artisanat à l'ancienne. J'ai découvert des travaux gigantesques de ponts et chaussées réalisé par une armée d'ouvriers et d'ingénieurs en uniforme de couleur, que mon guide, un vieux professeur qui avait autrefois enseigné le français et qui savait encore par cœur la péroraison du discours de remerciement de Paul Valéry à l'Académie française, qualifié d'envahisseur et même d'avant-garde barbare d'une invasion prochaine du grand tourisme. Mais à côté de ce massacre programmé depuis quelques bureaux ministériels de Tokyo, combien ai-je eu l'occasion de contempler et d'admirer le paysage immense et intact devant lesquels les spectateurs japonais restent des heures en admiration. Combien d'anciens villages trouvant une seconde vie parce qu'un groupe de danseurs, de joueurs de gong, de comédiens, de kabuki l'ont choisi pour domicile de leurs répétitions et de leurs exercices. Combien d'aires de temples desservies par un clergé nombreux et attentif. Pour cet arrière-pays qui n'a rien d'inerte ni de factice, mais qui a sa propre fécondité, qui vit selon son propre rythme, l'intérêt et l'amour des Japonais des grandes villes sont évidents. Ils n'y viennent pas en touristes, mais en pèlerins, et je dirais même en curistes, pour respirer avec le grand poumon traditionnel de la nation, d'où ils savent que leurs meilleurs poètes, romanciers, architectes, artisans d'art, tirent une inspiration qui les fait aimer et respecter du monde entier, même si leur prospérité matérielle et celle du Japon tirent d'ailleurs ses ressources de survie. Nulle part mieux que dans le domaine impérial, disait, je n'ai senti cette fonction respiratoire et inspiratrice de ces lieux indemnes, inviolés, apparemment inutiles, mais sans lesquels la modernité affairée et engorgée des mégapoles sombrerait définitivement dans la claustrophobie et l'allergie. Aussi, j'achèverai ce bref hommage à ce que les Romains auraient appelé le Japon de l'otium, c'est-à-dire le Japon qui se souvient de l'époque Edo, en citant, et je m'excuse de ce narcissisme, le début d'un essai que j'ai cru bon d'écrire à mon retour et que j'ai consacré justement au grand domaine impérial d'Issé. Donc je vous lis quelques lignes, le reste vous le lirez, vous l'avez lu dans un autre site. Qui sait à quelle date a été conçue et définitivement arrêtée l'architecture des trois temples d'Issé au sud de l'île principale de l'archipel du Japon, à quelques heures de voiture du port d'Osaka. Deux de ces temples se dressent dans une vaste et antique forêt sacrée, non touchée de main d'homme. Les troncs de ces pins, de ces chênes et autres essences d'arbres sont si gigantesques et leur feuillage est si épais qu'on y avance en plein jour dans une semi-ténèbre sous-marine, percée, si le temps est beau, par quelques flèches de lumière. C'est à l'autre bout du monde, le Nemus, le bois ou la forêt sacrée des Latins, dont la pénombre réfléchie dans le cristal d'un ruisseau donne éclat et relief à l'image réfléchie et pour lui-même irréalisable du beau et farouche chasseur Narcisse, fils du dieu fleuve Céphise, dans les Métamorphoses d'Ovide, ce Narcisse qui est en fait un des emblèmes justement du repos et dont la forêt elle-même, cette forêt intacte, ce Nemus, est en quelque sorte le centre du repos. Et Sénèque, qui a écrit un merveilleux traité d'Eotio sur le repos, dans sa lettre 41 à Lucilius, fait une description saisissante de ce genre de forêt sacrée dont il subsiste en Italie des fragments sauvages et intacts, entre autres celui qui s'étend, indemne du fer impie des chrétiens superstitieux, à Ariccia, non loin du lac de Nemi, derrière le château de la famille romaine des Colonna. Le lac auprès duquel se dressait dans l'Antiquité un temple de Diane et toute la vaste forêt environnante était consacré par les anciens Romains à la déité chasseresse. Il est possible qu'Ovide se soit souvenu de ces lieux, si proche de Rome, pour décrire le décor de la tragédie d'Actéon, le chasseur qui pénétra par mégarde dans cette forêt réservée à Diane et qui, pour son malheur, surprit la déesse au bain. Sénèque songeait peut-être lui aussi à ces lieux lorsqu'il écrivait à son jeune ami cette page qui est peut-être la première à décrire toute la profondeur que peut représenter le sentiment religieux. Si tu arrives devant une futaie antique d'une hauteur extraordinaire, où la multiplication et l'entrelac des branches dérobe la vue du soleil, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la libre campagne, te donneront la certitude d'une présence divine. Quelque part, enfouie dans l'océan végétal d'Isée, jaillit la source invisible d'où découle, calme et abondante, une large rivière dont l'eau est aussi cristalline que celle des torrents de haute montagne ou du ruisseau miroir où le narcisse d'Ovide, épris de son propre reflet, finit par s'engloutir avant de ressusciter sous la forme d'une fleur de safran blanche et étoilant le gazon. Il faut franchir un élégant pont de bois lancé en arc de cercle au-dessus de ce cours d'eau pour accéder au second des deux temples tissés. Impossible d'aborder ces lieux en touriste. Il y a du divin dans l'air et il impose sans effort le respect aux impies modernes, comme il s'imposait aux philosophes stoïciens devant l'antique Némus ou aux chrétiens défricheurs qui n'ont point touché au bois d'Aricia. Point de Hilton dans les parages. Nul miracle non plus à attendre, point de foule de Lourdes. Les mêmes Japonais que nous ne voyons à Paris qu'en groupe compact, tenus en suspens par le petit étendard de leur guide et se préparant patiemment dans la longue queue qui serpente au pied de la pyramide du Louvre à mitrailler de flash le portrait de la Joconde, n'approchent de la vaste forêt sacrée de la religion impériale qu'en pèlerins épars et silencieux. Aucune presse, peu d'entre eux sont munis de caméras, aucun d'entre eux ne s'en sert, et encore à distance du seuil des temples. Une fois franchie la première porte du soleil, le Torii Shinto, dressé au départ de l'allée, conduisant au premier temple, un tronc d'arbre creux où coule de l'eau toujours fraîche, attend sur sa gauche les pèlerins. Chacun y puise avec une longue louche de bois le liquide lustral qui purifie ses mains, ses lèvres, ses yeux. Ce premier temple, le plus vénéré et vénérable, est celui de la grande déesse solaire dont descend en droite ligne l'empereur, dont la dynastie ininterrompue est depuis toujours propriétaire et administratrice de l'immense fief où se cachent les lieux saints du shintoïsme à l'état pur, fidèle à ses origines, indemne du bouddhisme importé de Chine et de Corée, qui imbibe au contraire les nobles monastères zen de Kyoto et de Nara avec leurs statues antiques et leurs jardins de méditation. Encore plus résolument, Issei tourne le dos au coloriage figuratif et à la profusion baroque qui prévaut dans les sanctuaires semi-bouddhiques ouverts de toutes parts aux touristes et qui édifièrent à leur propre gloire tardive au XVIIe siècle dans des sites de montagne au nord de Tokyo, les shoguns. Dans un second temple, non loin de là, dans la même forêt, demeure le dieu de la fécondité, de la terre et du tissage. Il pourvoit à l'alimentation de la grande déesse et à sa garde-robe. Il faut ensuite reprendre voiture pour gagner sur la côte le troisième temple. Le pèlerinage s'achève à pied sur un chemin taillé à flanc de falaise au-dessus des vagues, toujours agitées de la mer du Japon, d'où émergent deux rochers déchiquetés de granit noir, reliés au-dessus des eaux par une passementerie décolorée. En fin d'après-midi, l'heure est propice pour adorer en silence le soleil se couchant glorieusement à l'horizon sous la courtine en arc de cercle qu'inclinent au-dessus de l'astre les deux écueils marins. porte naturelle du soleil, ce dernier temple n'est pas fait de main d'homme. Il attendait depuis les origines du monde, si toutefois le monde a une origine plus ancienne que la dynastie impériale, d'être reconnu et consacré par le fragile trait d'union tissé de main d'homme qui le parachève et le signale à la piété et à la contemplation. Mais pour l'essentiel, ce temple naturel n'est pas différent des deux autres. Paradoxe incroyable, en effet, aucun de ces deux édifices, dont nul pèlerin ordinaire ne verra que le seuil, seul pouvant le franchir les hauts dignitaires et seul pouvant pénétrer dans le sanctuaire l'empereur, sa famille et le clergé qui lui est affecté, aucun ne date jamais plus de 20 ans. Leur structure immuable peut passer pour aussi ancienne que les temples et les tombes de bois qui, à Saqqara, en Égypte, ont précédé les premières pyramides, le premier sort est réservé au commun de ces deux invisibles châteaux divins. Tout visible qu'il soit, au vent où les pèlerins peuvent choisir dans un fichier de ravissantes amulettes pilées dans des brocarts de diverses couleurs, vives et attachées par des cordelettes de soie, que leur distribuent de jeunes moines, ou couvent où réside le clergé desservant le culte de chacune des deux divinités, ils semblent eux-mêmes chercher à se confondre avec la forêt. Il est difficile d'imaginer une architecture de bois plus élémentaire et en même temps plus raffinée. Tout est poutre et tenon de couleur miel et gris, puissamment ajustés selon des proportions, une élégance, une autorité, une simplicité qui ferait paraître nouveau riche même les nefs romanes de nos églises bénédictines et, naturellement, même baroque le couvent de Port-Royal des Champs que Louis XIV fit raser en 1710. Pas un ornement, pas la moindre sculpture, pas la moindre peinture, pas la moindre figure, pas la moindre couleur. L'équilibre parfait de la forme pure tient lieu de décor, le sublime en quelque sorte de la hutte préhistorique, intacte et reproduit tous les 20 ans à l'identique, contenant et contenu depuis des dizaines de siècles par des charpentiers d'élite qui se transmettent leur savoir-faire de génération en génération. D'autres artisans, tisserands et orfèvres, attachés aux deux temples, renouvellent avec exactitude l'antique et précieux trésor de la déesse, comme celui du dieu qui la nourrit et l'habille. Trésor auquel seul l'empereur en personne a accès, mais qui eux aussi sont détruits à date fixe et chaque fois vélocement répliqués, tandis que sans interruption, les palefreniers du domaine impérial prennent soin de perpétuer et de soigner la race de superbes chevaux à la robe immaculée consacrée à la déesse et que nul humain n'a jamais enfourché, les jardiniers du domaine s'employant sans répit de leur côté dans les champs, potagers et vergers invisibles du fief divin à faire pousser le riz, les légumes et les fruits les plus écologiques du monde, exclusivement réservés aux offrandes dont se nourrit la déesse Soleil qui réside ici. Et en somme, nous nous trouvons dans la réserve la plus jalousement réservée intacte, au défi de ce que nous appelons histoire, progrès, modernité, mondialisation, un Vatican non réformé d'une antique religion naturelle. En plein XXIe siècle, dans l'ère de ce domaine sacré, reste intacte une économie agricole du même ordre et du même âge que celle qui prévalait à l'époque pharaonique dans les domaines qui faisaient vivre le clergé des grands temples de la vallée du Nil. Je doute que l'électricité, dont je crois me souvenir de n'avoir vu aucune trace, même à l'approche de la nuit, y ait jamais pénétré. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Marc Fumaroli de l'Académie française et également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, intitulée « La fidélité à soi-même dans la modernité, l'exemple du Japon ». Cette communication fait partie de la journée d'études organisée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 23 mai 2008 à l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la France.